VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 8 novembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. Élection de mi-mandat à fort enjeu aujourd'hui aux États-Unis, en particulier pour le reste du mandat du démocrate Joe Biden et les ambitions pour 2024 de son prédécesseur républicain Donald Trump. L'ensemble de la Chambre des représentants est à renouveler, ainsi qu'un tiers du Sénat. Au Mali, un commandant de renom appelle tous les Touaregs à se battre contre l'expansion du groupe État islamique dans le Nord. À la COP27, le président du Kenya, William Ruto, appelle à reconnaître le cauchemar des Africains. Et selon un rapport publié ce mardi, les pays du Sud ont besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. L'Ukraine reçoit de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne pour contrer les missiles russes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donc ici aux États-Unis, plus de 40 millions d'électeurs ont déjà voté hier aux élections de mi-mandat de façon anticipée, surpassant le niveau des législatives de 2018, selon le US Election Project Jacques Aristide.
Les Américains sont appelés aujourd'hui à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes d'élus locaux, notamment de gouverneurs ou procureurs, sont également en jeu. Depuis quelques années, l'immense majorité des États offre la possibilité de voter par anticipation ou par correspondance au scrutin, une pratique qui s'est généralisée lors de la présidentielle de 2020, tenue en pleine pandémie de Covid-19. Cette année, plus de 18 millions d'Américains ont ainsi voté par anticipation en personne. 22 millions d'électeurs ont renvoyé un bulletin par correspondance, soit un total de plus de 40 millions de votes. À la même époque, en 2018, 39,1 millions de personnes avaient voté aux midterms. Les Républicains ont toutefois introduit des recours sur des points très techniques pour tenter d'invalider certains votes anticipés dans des États clés où les résultats pourrait être serré. En Pennsylvanie, la Cour suprême de l'État a donné raison aux républicains et jugé que ces bulletins ne pourraient pas être comptabilisés s'ils étaient mal datés. Des milliers de voix sont affectées. Dans le Wisconsin, les républicains ont obtenu que certains votes par correspondance soient écartés si l'adresse du témoin qui doit être présent pendant la procédure n'est pas complète.
Deux hommes qui ne sont même pas candidats, Joe Biden et Donald Trump, jouent aussi leur avenir politique aujourd'hui. La course pour ces élections législatives de mi-mandat a été hier dans sa dernière ligne droite avant l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Michel Joseph.
L'actuel et l'ancien président se sont affrontés par meeting interposé en conclusion d'une campagne qui a mis à nu les divisions profondes aux États-Unis. Ces élections de mi-mandat sont devenues comme une sorte de référendum sur l'occupant de la Maison-Blanche. Joe Biden a encore répété hier dans son dernier meeting dans le Maryland, proche de Washington, que ce scrutin n'est pas un référendum sur son action, mais sur le droit à l'avortement et la démocratie. De son côté, l'ancien président Donald Trump, qui lui non plus n'est pas candidat, était dans l'Ohio pour galvaniser les foules. L'Ohio est un État emblématique des inquiétudes de l'Amérique profonde, avec une classe moyenne modeste, majoritairement blanche, et tentée par un repli face à la mondialisation. Ce scrutin pour le contrôle du Congrès va se jouer dans une poignée d'États comme l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Et vous serez certainement édifiés ce soir dans notre soirée électorale sur VOA Afrique.
Ajoutons que l'ancien président Trump, qui flirte ostensiblement avec une nouvelle candidature à la Maison-Blanche, a promis hier soir de faire une très grande annonce, c'est une citation, la semaine prochaine, plus spécifiquement le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Il l'a dit lors d'un meeting de campagne hier dans l'Ohio.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, l'armée congolaise a déployé depuis dimanche deux avions de chasse Sukhoi 5 dans le nord Kivu, où elle est aux prises avec une offensive des rebelles du M23, et l'un des appareils a été accusé dès lundi par le Rwanda d'avoir violé son espace aérien. Un survol malencontreux, selon Kinshasa. Au Mali, un commandant Touareg de l'armée appelle tous les jeunes Touaregs à l'intérieur et à l'extérieur du pays à se battre contre l'expansion du groupe État islamique au Grand Sahara. Le point avec Lionel Gahima.
Le général Touareg El Hadj Aggamou, dans un message en langue tamashek, donne 10 jours à tous les jeunes Touaregs du Mali, d'Algérie, de Libye, pour rejoindre les environs de Gao, la plus grande ville du nord malien. El Hadj Aggamou est l'un des leaders du groupe d'autodéfense Touareg Imghad et allié Ougatia, tout en restant général de l'armée nationale. Le groupe d'État islamique au Grand Sahara multiplie depuis mars les offensives dans les vastes régions de Gao et Menaka. Les syndicats de la région de Gao ont appelé à un arrêt de travail de 48 heures aujourd'hui et demain pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et l'inaction du gouvernement. La junte malienne n'a pas encore réagi aux propos du général Gamou ni à l'appel des syndicats. En 2012, les groupes armés Touareg ont déclaré indépendant le nord du Mali, qu'ils ont appelé Azawad, avant d'abandonner leur velléité indépendantiste en signant en 2015 un accord de paix avec Bamako. D'autres ont rejoint la nébuleuse djihadiste dirigée par Iyad Aggali, qui a été lui-même le leader de toutes les rébellions Touareg au Mali.
L'ex-président comorien Ahmed Abdallah Sambi, placé en détention préventive depuis plus de 4 ans pour une affaire de corruption, sera finalement jugé pour haute trahison devant la Cour de sûreté de l'État. Cette décision a été dénoncée lundi par son avocat et sa famille, qui estiment que haute trahison est un crime qui viendra justifier une peine plus lourde devant la Cour de sûreté de l'État, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Monsieur Sambi, au pouvoir de 2006 à 2011, est considéré comme le principal opposant à l'actuel président Azali Assoumani. En Tanzanie, des organisations de défense des droits humains ont demandé lundi au gouvernement de prendre des mesures face à la recrudescence des attaques contre les albinos et d'étendre notamment les enquêtes de police aux guérisseurs traditionnels. En Tanzanie et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, des parties du corps d'albinos sont vendues pour des pratiques occultes censées apporter richesse et pouvoir. Le président kényan William Ruto a appelé hier à la COP27 à la reconnaissance des besoins spéciaux de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Il a souligné le cauchemar vécu par les Africains, mais aussi les atouts du continent dans ce combat, Mohamed Houmpa.
Les pertes et dommages ne sont pas le sujet abstrait d'un dialogue sans fin, c'est notre expérience quotidienne et le cauchemar subi par des millions d'Africains, a déclaré au nom du groupe Afrique William Ruto, en référence à la réticence des pays riches à créer un mécanisme spécifique pour aider les plus pauvres à faire face aux dégâts déjà causés par les impacts du réchauffement. Il est juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique, a-t-il ajouté, égrenant une liste des désastres vécus par le continent. Nous voulons plaider auprès des économies développées pour qu'elles décarbonent leur production en dirigeant leurs investissements industriels vers l'Afrique et en utilisant de l'énergie propre pour produire pour le monde entier, a lancé le président Ruto, tout en soulignant les atouts de l'Afrique. Pour se pencher sur ces sujets, en tant que président du groupe des négociateurs africains, il prévoit d'organiser en 2023 un sommet continental sur l'action climatique.
Les pays du Sud auront besoin de quelque 2400 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique, dont près de la moitié, 1000 milliards, venant d'investisseurs extérieurs grâce à des investisseurs aux pays développés et aux institutions multilatérales. Le reste viendrait de financements intérieurs à ces pays privés ou publics. C'est le rapport commandé par la présidence de la COP et la présidence britannique de la précédente COP, publié aujourd'hui. La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
La Guinée équatoriale a autorisé la remise au Nigeria d'un super pétrolier et ses 25 membres d'équipage, arraisonnés en août et retenus depuis dans un port au sud de la capitale, a annoncé le vice-président sur Twitter. Le 8 août, ce super pétrolier d'une capacité de 3 millions de barils, soupçonné de participer à du trafic illégal, avait pris la fuite au large de Port Harcourt au Nigeria. Le président kényan William Ruto a appelé lundi à la COP27 à la reconnaissance des besoins spéciaux de l'Afrique dans la lutte contre le réchauffement. Ces 50 dernières années, les sécheresses ont tué 500 000 de personnes et provoqué des pertes de plus de 70 milliards de dollars dans la région, a-t-il déclaré. Le Zimbabwe a annoncé lundi l'envoi dans l'espace du premier satellite de son histoire, ZimSat-1, et dans l'espace s'est réjoui sur Twitter le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, saluant une étape scientifique importante pour le pays. La NASA a confirmé qu'une fusée a fait partir à 10h32 GMT en Virginie aux États-Unis un cargo à destination de la Station spatiale internationale, amenant à son bord 3 CubeSats mis au point par le Zimbabwe, l'Ouganda et le Japon.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Foot Espagne, le Real Madrid essuie sa première défaite en Liga.
Oui, le champion d'Espagne en titre a échoué sa première défaite de la saison en Liga, 3-2 hier soir en clôture de la 13e journée sur le terrain du Rayo Vallecano et cède ainsi la première place au FC Barcelone, vainqueur samedi d'Almeria, 2-0. En l'absence de Karim Benzema, toujours gêné par des douleurs à une cuisse, les merengues ont été surpris lors d'un match fou. Le Rayo a ouvert la marque dès la 5e minute grâce à Santi Comesana. Puis le Real a repris l'avantage grâce à un pénalty de Luka Modric à la 37e et une tête d'Eder Militao à la 41e. Mais Alvaro Garcia a égalisé à 2-2 juste avant la pause. Et Oscar Trejo a scellé la victoire des banlieusards à la 67e minute sur pénalty.
Mondial 2022, le Brésil avec Neymar et Dani Alves, mais sans Firmino.
Oui, le Brésil, un des grands favoris du mondial, ira au Qatar en quête d'une 6e étoile avec Neymar, grand star de la liste des 26 sélectionnés annoncés par Tite lundi, dont fait également partie Daniel Alves, 39 ans, retenu même s'il n'a pas disputé le moindre match depuis 2 mois. Le seul absent de marque est l'avant-centre de Liverpool, Roberto Firmino, laissé de côté au profit de Gabriel Jesus de Arsenal, rappelé après avoir été absent du dernier rassemblement de la Seleção.
Mondial 2022 à Doha, les fans de l'Argentine rêvent de victoire pour Messi.
Oui, ce sera la Coupe de Léo. Plusieurs dizaines de supporters de l'Argentine se sont réunis pour célébrer la sélection et sa star Lionel Messi ce lundi à Doha, devant l'horloge marquant 13 jours avant le début du Mondial 2022 au Qatar. Vêtus de maillots blancs et bleu clair, ils ont entonné des chants et posé pour les photos avec un immense drapeau avant d'accueillir 4 de leurs compatriotes venus à vélo depuis l'Afrique du Sud.
Ligue des champions, un remake de la finale Liverpool-Real Madrid dès les 8e, choc PSG-Bayern.
Oui, ce sera les deux affiches phares de ces 8e de finale à l'issue du tirage au sort à Nyon en Suisse. Le Paris Saint-Germain qui a été coiffé au poteau lors de la dernière journée de la phase de groupe par Benfica va affronter le Bayern Munich. Quant au Real Madrid, il retrouve Liverpool comme lors de la dernière finale remportée par les Madrilènes.
Et en Ligue Europa, ce choc Barça-Manchester United. dès les barrages d'accession au huitième.
Et ce FC Barcelone-Manchester United, c'est aussi un duel entre Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo, réversé en Ligue Europa après une campagne de Ligue des Champions calamiteuse. Le Barça défiera Manchester United les jeudis 16 et 23 février avec le match retour en Angleterre.
Merci, Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des dizaines de millions d'Américains sont appelés à renouveler ce mardi le tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants. Ces derniers jours, les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump ont battu campagne pour prêter main forte aux candidats démocrates et républicains dans une élection cruciale à 2 ans de la présidentielle de 2024. Déjà plus de 40 millions d'électeurs ont voté par anticipation. Abdulrahman Dia a joint à New York le professeur Mohamed Modj de Manhattan College. Il nous dit d'abord pourquoi autant d'Américains ont choisi le vote anticipé.
D'une part parce que quand même c'est une tendance qui va s'affirmer dans les années à venir, que les gens ne vont plus se déplacer dans les bureaux de vote et vont préférer voter de chez eux ou de leur machine ou par la poste. Donc cette tendance ne va pas s'arrêter, elle va continuer d'une part. D'autre part, c'est un moment crucial et de beaucoup de questions ont été soulevées. Les républicains sont mobilisés pour barrer la route et faire en sorte que les 2 dernières années, en tout cas les 2 années de suite du mandat de Biden soient les plus misérables possibles, alors que les démocrates sont mobilisés pour sauvegarder ce qu'ils considèrent comme des acquis sous Biden, de ce qu'ils appellent des reculs dans la démocratie de la part des républicains. Donc je ne suis pas étonné qu'il y ait autant de participation précoce. Donc c'est une tendance qui va continuer dans les élections américaines.
Traditionnellement, les élections de mi-mandat sont plus difficiles pour les partis au pouvoir. Vous pensez que ce sera le cas également pour cette fois-ci?
Le Congrès, c'est, d'après tous les sondages, c'est à peu près sûr. Le Sénat, c'est un peu moins sûr. Certes, cela suit un tout petit peu ce que vous venez de dire. Ce qui arrive d'habitude avec les élections mi-mandat. Sauf que pendant ces 2 ou 3 derniers jours, des journalistes et des instituts de sondage ont dénoté une sorte de reprise de sympathie, une nouvelle bouffée de sympathie, si on peut parler ainsi, et d'enthousiasme de la part des électeurs démocrates, et aussi un certain repositionnement beaucoup plus favorable aux démocrates de la part de ce qu'on va appeler les neutres ou les indépendants.
Alors, on a aussi vu les anciens présidents Obama et Trump descendre dans l'arène pour cette dernière ligne droite. Vous pensez qu'ils peuvent faire basculer, disons, cette élection dans un sens ou dans un autre?
Trump, certainement, veut surfer, comme on dit, sur la vague des élections, mais je ne pense pas que sa voix, sa présence crée un plus grand enthousiasme ou une plus grande participation des conservateurs américains. Je crois qu'ils sont déjà assez mobilisés. Par contre, Obama est bien un porteur de voix, surtout vers la jeunesse et vers les Noirs, qui sont les deux qui traînent dans le camp démocrate. Et c'est peut-être l'intervention d'Obama est un peu plus décisive pour les observateurs politiques que l'intervention de Trump.
C'était le professeur Mohamed Modj de Manhattan College. Enjeu majeur donc pour les élections de mi-mandat de ce mardi, le résultat déterminera qui du parti républicain ou démocrate contrôlera la Chambre des représentants et le Sénat. Maintenant, quelles sont les attentes des Africains vivant dans la région de Washington, la capitale fédérale? Thierry Kaoré s'est rendu à White Plains et Silver Spring dans l'état du Maryland pour en savoir plus. Son reportage.
Pour la diaspora africaine de la région de Washington, ces élections sont celles de tous les défis. L'économie, l'immigration, L'éducation, les attentes sont nombreuses. Le docteur Mohamed Camara est directeur du département des études africaines de Howard University. Selon lui, le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique dans le domaine de l'éducation pourrait être affecté par le résultat de ces élections.
Pour nous, membres de la diaspora, si les élections renversent le peu d'équilibre que nous avons entre l'exécutif et le législatif à Washington DC, et cela aura des répercussions très sérieuses. Beaucoup d'universités américaines, ont des rapports de partenariat avec des universités africaines et puis des gouvernements africains. La dissolution de ce type de rapport de travail va paralyser d'aspects fondamentaux de l'éducation aux États-Unis pour les membres de la diaspora africaine.
Sur le plan économique, les États-Unis connaissent une inflation galopante depuis l'année dernière. Madame Cécile Abba est une ressortissante guinéenne, mère de deux enfants.
Avant, je pouvais dépenser par exemple 300 dollars pour deux semaines, mais actuellement, il me faut 600 dollars pour les deux semaines. C'est très difficile. Donc, nous voulons que les prix diminuent parce que le marché est vraiment cher.
Des attentes également dans le processus de traitement des dossiers des immigrants africains. Maître Joseph Mitterrand, FA, est avocat.
J'ai déposé une plainte contre le procureur général des États-Unis et toute sa suite, le directeur de USCIS, pour certains dossiers d'asile qui sont en instance, en attente d'études depuis, pour certains, 2014 et pour d'autres, 2015. Plus de 2780 jours au-delà du temps imparti par le Parlement pour décider de ces dossiers, qui est normalement environ 180 jours. Vous comprenez que c'est le plus grand des malaises de tous les immigrants et on verra ou alors on aimerait voir un Parlement qui va accélérer le processus de normalisation de la situation immigrationnelle de tous ceux qui viennent d'ailleurs pour s'installer ici à perpétuelle demeure.
Quel que soit le parti qui va diriger le Sénat ou la Chambre des représentants, les Africains de la diaspora espèrent que leurs aspirations seront prises en compte après ces élections générales du mardi 8 novembre.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les élections de mi-mandat pour le contrôle du Congrès américain. À deux ans de la fin du mandat de Joe Biden, les démocrates se battent pour conserver leur courte majorité dans les deux chambres, alors que les républicains espèrent une victoire au sortir des élections du 8 novembre. Leur focus, l'inflation galopante et l'immigration à la frontière sud, tandis que les démocrates misent sur des questions comme le droit à l'avortement et ce qu'ils appellent la menace pesant sur la démocratie américaine. Sur les enjeux de ces élections, rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
En République démocratique du Congo, l'appel du président Félix Tshisekedi à la mobilisation pour mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23 semble faire son effet dans la province du Nord Kivu. Des centaines de jeunes ont été enrôlés dans l'armée ces derniers jours et la sensibilisation au patriotisme via les réseaux sociaux est également promue par des mouvements citoyens, nous dit Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Lundi 7 novembre au matin, plusieurs centaines de jeunes filles et garçons se sont rassemblés à la 34e région militaire de Goma. Ahadi Mosengo et les siens ont décidé de revêtir l'uniforme militaire après l'appel du président congolais Félix Antoine Tshisekedi.
Face au M23, nous, les jeunes, avons dû mettre nos efforts en commun pour libérer notre pays. Ici, je me sens prêt à me battre s'ils arrivent à Goma. Je me sens prêt parce que la souffrance est l'un des bons professeurs.
Le discours du président congolais a été salué par plusieurs acteurs de la société civile et des mouvements citoyens. Eric Bonapoua, militant du mouvement pour la nation congolaise, estime que l'appel à la mobilisation est tout ce qui restait au peuple pour parler le même langage.
Jusque là, nous sommes en train de nous mobiliser parce que c'était un appel que nous attendions il y a longtemps. Et voilà, au moins cette fois-ci, le président de la République l'a fait. Et nous sommes en train de mobiliser tous les jeunes, filles et garçons de la province du Nord Kivu, et plus particulièrement de la ville de Goma, qui soient vraiment très mobilisés pourvu que, en ensemble nous puissions combattre contre les rebelles du M23.
Dans les réseaux sociaux à Goma comme ailleurs dans la province, des groupes dits de vigilance ont été créés et des campagnes de sensibilisation à l'enrôlement dans l'armée sont menées. Suzy Kisuki, activiste du groupe de pression Véranda Mutsanga, est parmi les mobilisateurs de première ligne à Goma.
Nous savons beaucoup de pays qui sont impliqués dans cette guerre-là. Ce n'est pas seulement le Rwanda, même l'Ouganda est impliqué. D'ailleurs, je profite à cette occasion-là de dire à notre chef de l'État de mettre fin aussi à l'opération conjointe des Ougandais qui se trouvent à Beni. Parce que moi, je ne vois pas comment l'Ouganda peut vouloir nous combattre au niveau des Rutshuru et qu'il puisse faire semblant qu'il combat pour nous au niveau de Beni. En tout cas, nous sommes préparés et on fera quelque chose. La mobilisation continue pour que tout le monde puisse s'enrôler dans l'armée.
Dans son dernier discours à la nation congolaise vendredi dernier, Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur la mobilisation populaire de la population afin de libérer une partie du pays des mains des agresseurs qui se cacheraient derrière la rébellion du M23. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma, en RDC, sur 96.2 FM.
La conférence mondiale sur le climat, la COP27, se poursuit à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Plusieurs dirigeants se sont déjà exprimés pour proposer des solutions face au réchauffement de la planète, sans pour autant faire chorus sur la question du financement qui divise pays industrialisés et pays en voie de développement. Pour une analyse, Mohamed Houmfa a joint en Égypte Nikese Moulumbi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale.
À l'ouverture dimanche de la passation des charges entre le président britannique sortant et le président entrant de l'Égypte, une question fondamentale qui nous tient à cœur a été prise en compte, celle de la prise en compte des solutions basées sur la nature. Ce qui veut dire que cette décision au point 8 rentre dans les discussions, dans l'agenda officiel des discussions de cette COP27. Mais aussi la question des pertes et dommages.
Lundi, on a eu des discours du président Emmanuel Macron, du secrétaire général de l'ONU, qui ont appelé à l'implication de la Chine et des États-Unis. Quel est votre avis à ce sujet?
Mais mon avis, c'est encore une hypocrisie internationale et européenne. On interdit les Africains à exploiter leur pétrole, à utiliser leurs forêts, alors même qu'à cause de la guerre en Ukraine, l'Allemagne est repartie au charbon. Ça voudrait dire que l'Allemagne, en réalité, n'avait pas désorganisé son système de production de charbon. Donc ça veut dire qu'il y a de l'injustice, il y a de l'hypocrisie climatique.
Parlons justement de la Chine et des États-Unis. Est-ce que vous sentez une implication de ces pays dans cette COP 27?
Les États-Unis ont un envoyé spécial, qui est John Kerry, qui fait le tour et qui a un engagement très fort avec les pays. Il y a aujourd'hui les grands groupes américains aussi sont en train d'acheter autour des pays du bassin du Congo les crédits carbone pour compenser leur production industrielle en CO2. Les financements arrivent malheureusement par leur propre structure. La Chine est en train de s'organiser. La Chine est en train de préparer une nouvelle révolution au niveau de la société civile africaine en appuyant directement ces ONG africaines. Là où la France a totalement échoué. Elle vient même installer maintenant dans nos pays des industries de transformation de bois.
Il semble encore y avoir un désaccord. Les pays africains attendent un financement pour financer les pertes et dommages causés par le changement climatique. Certains pays européens ne semblent pas prêts à apporter ce financement. Est-ce que vous pensez qu'on parviendra à un accord de financement qui sera satisfaisant?
Cet accord de financement ne sera jamais satisfaisant parce que quand elle décide de donner un accord de financement, elle calibre les conditionnalités auxquelles nos pays auront du mal à s'adapter. Il revient aux Africains qui sont pays solution d'avoir des programmes intégrateurs.
Le président kényan a d'ailleurs rappelé que l'Afrique a des atouts dans ce combat, le combat contre le changement climatique. Quels sont ces atouts, Nikese Moulumbi?
Le Les atouts de l'Afrique, c'est d'abord les atouts du bassin du Congo, qui est aujourd'hui le premier poumon de l'humanité. Nous avons un couvert forestier et nous avons une biodiversité importante. Une des solutions aussi, c'est que nous avons quand même une richesse énorme en termes de minerais.
Nikèze Moulumbi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.